Alors, comment je vais intervenir? En disant d'abord que de manière liminaire, ma position par rapport au premier jour fait que je n'appartiens pas à la famille des didacticiens des mathématiques, mais que je ne suis pas totalement étranger à la didactique. J'oserais modestement dire qu'en 89, ça fait maintenant 24 ans, j'ai produit un que sais-je avec quelqu'un qui est disparu depuis, qui s'appelait Jean-Pierre Astolfi, et qui avait pour titre « La didactique des sciences ». Donc j'ai l'impression d'être un métèque par rapport à votre communauté, mais de ne pas en être un barbare, hein, pour reprendre la pensée grecque. Alors ma posture pendant cette journée-là, c'était, alors j'oserais pas aller jusqu'à celle d'un ethnologue qui cherche des repères dans un vocabulaire que j'ai trouvé parfois le premier jour inflationniste, c'était celle d'un béotien, toujours pour continuer dans une référence grecque, voire celle d'un micromégas dans le traité de métaphysique de Voltaire, soit celle d'un ouzbek dans les lettres persanes. Je ne dis pas ça pour chercher à montrer que j'ai effectué quelques lectures, mais simplement pour dire qu'il est très difficile de s'intégrer, quand bien même on est proche d'une communauté, dans l'ensemble des problématiques et des vocabulaires utilisés par cette communauté. Alors, mes questionnements de Béotien ont tourné autour de trois ensembles. D'une part, le mot « théorie », qui me semble être vraiment un mot clé dans votre communauté. D'autre part, autour de l'usage qui est fait de l'anthropologie. Et puis, mais je n'ai plus grand-chose à en dire, après ce que vient de dire Alain, du mot « ignorance ». Et puis après avoir évoqué comment ont résonné ces trois ensembles, je parlerai de quelques prolongements spéculatifs par rapport à ces trois ensembles. Alors, effectivement, le mot « théorie », je l'ai beaucoup entendu. On parle tout à la fois de théorie des situations didactiques, d'une théorie anthropologique du didactique, mais aussi il a été fait état d'une théorie économique, d'une théorie de l'action conjointe, d'une théorie des épisodes et même d'une théorie de l'ignorance. Or, pour, j'allais dire le scientifique, j'ose plus maintenant dire, mais par rapport à la biologie qui a été ma discipline de référence, par rapport au champ scientifique, le mot théorie a une signification qui est peut-être distincte de celle que vous utilisez. Parce que j'espère ne pas être cuistre en rappelant que théorie, théos, théologie, chez les Grecs, la théologie s'opposait à la pratique dans la mesure où elle était en définitive ce qui pouvait permettre, indépendamment de l'action, de trouver une signification aux actions qui étaient rencontrées. Et j'ai hésité en permanence à savoir si vous utilisiez le mot théorie comme je viens de le dire, ou si vous l'utilisiez comme en science, on le rapproche du mot système, on le rapproche du mot modèle, et on le rapproche du mot de preuve, en visant quelque part ce qui a été appelé généricité ou généralité. Et il me semble que vous êtes sur ces deux registres simultanément. Tout à la fois, quand Alain a fait état à l'idée que la didactique n'était pas une science expérimentaliste, mais qu'elle était une science expérimentale, et quand il a fait état tout à la fois à l'astronomie, qui est une science et dans laquelle on ne peut pas cependant expérimenter, il me semble qu'il y a là une des deux formes qui peut conduire à parler de théorie. Et il me semble qu'il y a d'autres moments où on cherchait en quelque sorte un principe, j'ose dire, transcendant, au sens profane du terme, en tout cas surplombant, qui permette de comprendre l'action. Donc il me semble que ce mot-là, alors moi j'aurais tendance à aller chercher du côté d'une théorie du système général pour reprendre Jean-Louis Lemoigne ou Bernard Valizère et son livre sur système et modèle, mais je me dis que si vous utilisez autant le mot théorie, c'est qu'il y a une signification qui m'a échappé et je souhaiterais la trouver. Alors ça me semble d'autant plus fondamental que le rapport didactique phénoménologie pose sans doute la question de la théorie. Le deuxième mot qui m'a accroché, c'est le mot anthropologie, puisqu'il figure même dans une des deux grandes théories de référence, qui est la théorie anthropologique du didactique, enfin auxquels se réfèrent les didacticiens des mathématiques. Et alors j'ai été étonné parce que je vais vous dire mon étonnement. Moi qui ne suis pas du tout anthropologue, mon étonnement provient du fait que pour moi l'anthropologie c'est quand même la science qui s'intéresse aux particularités de l'action humaine et qui cherche à comprendre, et il est fait abusivement, me semble-t-il, référence en anthropologie à Andros. Je vais y revenir dans un moment. Et quand Alain parle de cette thèse, alors absolument pour moi énigmatique, originale, et donc a priori extrêmement intéressante, qui est la thèse dont tu as dit qu'elle allait venir en soutenance de cette collègue qui travaille avec des chimpanzés, je me suis dit, mais comment est-il possible de parler d'une théorie anthropologique du didactique dès lors qu'on s'intéresse à la transmission chez des personnes, enfin les chimpanzés en l'occurrence, pour lesquelles la notion de culture, qui est quand même le concept central de l'anthropologie, n'a pas beaucoup de signification. Ce qui m'a fait dire, voilà, mais c'est mon ignorance hein, qui me fait dire tout ce que je raconte, que peut-être... les didacticiens ne sont pas... Peut-être que les didacticiens... Parce qu'il me semble que pendant ces trois jours, on a reconsidéré, on a remodelé, ça l'a été dit encore il y a peu, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la didactique ? L'existentialisme est-il un humanisme ? La didactique est un humanisme, en tout cas. Il me semble que les didacticiens s'intéressent au processus de transmission. Et qui s'intéresse au processus de transmission, mais pas comme l'anthropologue peut le faire à travers des situations qu'il n'a pas créées, mais à travers des situations dont il préjuge, quand il les offre dans le système scolaire, qu'elles auront une efficacité pour permettre aux élèves de s'approprier le savoir qui est à l'intérieur. Donc il me semble, si j'avais aujourd'hui à dire qu'est-ce que c'est que la didactique, je dirais que c'est une approche des processus de transmission dès lors qu'on s'intéresse à des êtres pour lesquels le mot culture n'a pas peut-être grande signification. Alors j'ose dire encore autour du mot anthropologie, toujours par phénomène de rapprochement, peut-être abusif, que, je le disais à l'instant, anthropologie, le concept central, c'est quand même le concept de culture. Et moi, en vous entendant, il y a deux choses qui me sont venues. D'une part, aujourd'hui, peut-être avez-vous vu, si vous vous intéressez à l'école, qu'on parle de socle de compétences, de connaissances et de culture. La grande différence qui va exister entre les propositions qui étaient faites par la droite, le socle de compétences et de connaissances, et celles qui sont faites par la gauche, c'est d'ajouter le terme de culture. Et il me semble que s'il y a aujourd'hui un non-pensé dans le système scolaire, c'est bien ce concept. Est-ce que la somme des disciplines est la culture dont on parle, ou est-ce que c'est autre chose ? Et alors j'ose, toujours très modestement, me semble-t-il, rabattre l'idée de culture sur deux approches, même si dans son livre qui est « École et culture », Jean-Claude Forquin explique qu'en 1952, deux auteurs anglais ont identifié 152 définitions du mot « culture ». Il me semble qu'il y a deux grandes approches qui peuvent être identifiées. Il y a la culture dans sa dimension patrimoniale. L'université est un vaste cimetière de thèses et serait, en quelque sorte, un lieu potentiel de culture. Et puis, il y a la culture, c'est ce qui fait sens à chacun de nous quand on commence à échanger avec quelqu'un de différent. Et alors, il me semble que si l'école veut s'intéresser à faire exister un socle commun de compétences, de connaissances et de culture, je ne m'explique pas sur connaissances et compétences, si elle veut faire exister cela, alors peut-être devrions-nous être attentifs à qu'est-ce que ça pourrait être qu'une didactique intéressée à la transmission au-delà des savoirs disciplinaires, dont chacun peut avoir la maîtrise, à s'intéresser à la culture de la discipline à laquelle il appartient. Qu'est-ce que ce serait qu'un didacticien des mathématiques ou de quelque autre discipline qui s'intéresserait à la transmission d'une culture mathématique dont il conviendrait de définir les bornes qui soient plus que la transmission de savoir mathématique. Et l'autre chose qui m'a intéressé à travers anthropologie et le lien que je fais entre anthropologie et culture, avec un auteur disparu, décidément, qui est Jacques Lévin, qui était psychanalyste, nous avons écrit un petit livre qui a pour titre « Pour une anthropologie des savoirs scolaires ». Et je croyais connaître le sens du mot « anthropologie » et Jacques croyait connaître le sens du mot « anthropologie ». On est allé regarder dans le dictionnaire historique de la langue française. Et dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, il est dit qu'on ne parle pas d'une anthropologie, andros, l'homme, mais qu'on parle d'une anthropologie. Et Alain Rey suggère que le mot « anthropologie » puisse être constitué de deux vocables, le premier qui serait « andros », homme, et le deuxième qui serait « toros », sperme. Et qu'en quelque sorte, symboliquement, l'anthropologie serait la science qui s'intéresserait à la manière dont l'homme est capable de féconder de l'humain. À la manière dont l'homme est capable de féconder de l'humain. Ça me semble symboliquement absolument merveilleux. Et je me dis que si les didacticiens s'intéressent à la transmission d'une culture de la discipline qu'ils représentent, non seulement ils s'intéressent à la transmission de la culture de la discipline qu'ils représentent, mais dans une vision qui est une vision chargée, évidemment, des valeurs qui permettent que chacun de nous, enseignants, soit capable, le cas échéant, de féconder de l'humanité. Le troisième terme qui m'a intéressé, c'est le terme ignorance, mais Alain dit des choses qui font que je ne vais pas y revenir. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué qu'on puisse parler d'ignorance. Et tu m'as, il y a un instant, ravi en disant ce que tu en as dit, parce que, en quelque sorte, il y a deux ignorances. Il y a l'ignorance savante et l'ignorance profonde. L'ignorance savoir, c'est savoir que l'on ne sait pas. Et l'ignorance profonde, c'est ne pas savoir pourquoi l'on ne sait pas. Et il me semble que ce dont tu fais état, c'est l'ignorance savante. Alors, par rapprochement avec la didactique des sciences, et tu as parlé il y a un instant de l'erreur, de quelle ignorance parle-t-on, quoi ? Si on accepte, c'est intéressant quand on fait de la didactique comparée, de voir comment les concepts ne sont pas les mêmes dans l'émergence des disciplines. Par exemple, en discipline des sciences, il y a un concept qui a fait florès, c'est le concept de conception. Il y en a un qui a fait florès chez vous, c'est le concept de transposition. Et à travers conception, l'idée d'ignorance n'est pas présente. On se dit qu'un élève, à un moment déterminé, il n'est pas dans la situation de ne pas connaître, il est dans la situation de se construire une certaine représentation qui n'est pas adéquate à ce qui est nécessaire pour comprendre la situation dans laquelle il est placé. Voilà. Alors, à côté de ces trois mots phares que j'ai extraits de la journée, il y a trois autres choses qui me sont advenues. Le premier, c'est ce regard anthropologique porté sur l'élève avec l'idée qu'on a tous besoin d'une théorie du sujet à un moment déterminé. Parce qu'en quelque sorte, soit, et ça n'est pas ce que tu préjuges, soit on considère l'élève dans sa dimension épistémique, et je ferme le banc, soit on le considère, alors le vocable n'est pas de moi, dans sa réalité bio, psycho, socio-épistémique. Et si on le regarde à travers la complexité qu'il recèle et que chacun de nous recelons, alors à ce moment-là, on comprend bien pourquoi la dimension anthropologique est présente, et on comprend bien pourquoi l'idée d'un être collectif présent dans chaque être individuel, pour reprendre ce que tu as dit, est présente. Alors ça aussi, pourquoi cela a déclenché un intérêt ? Parce qu'il me semble que l'intelligence est la socialité intériorisée, a dit l'autre. Je suis ce que les autres ont fait de moi, a dit d'aucuns. Il me semble que c'est important de laisser entendre qu'en définitive, si je regarde l'élève dans, c'est très difficile méthodologiquement, dans la complexité, dans la globalité de son être, alors à ce moment-là, sans doute que l'idée de biographie est fondamentale. Mais si l'idée de biographie et l'idée de biographème que tu as travaillé est une notion importante, comme tu y es revenu il y a un instant. Mais alors, à ce moment-là, il me semble que c'est extrêmement difficile de ne pas prendre en compte je ne vais pas m'y arrêter, l'idée de l'après-coup chez Freud et que reprend Lacan. C'est-à-dire qu'il y a une manière de penser la biographie et de penser les biographèmes qui renverrait à l'idée qu'il suffirait, et je ne sais pas si ça a une relation avec ce qu'a dit Claire Petit-Mangin, qui renverrait à l'idée qu'il est important à un certain moment pour comprendre comment me vient l'idée, qu'il suffirait de faire revenir à la conscience quelque chose, écrit Vermeersch, qui est du domaine du préconscient, comme si, d'une certaine manière, nous allions à la rencontre d'un passé que nous pourrions retrouver sans que le présent l'ait transformé, l'ait affecté, ce passé. Et il est clair qu'avec la notion d'après-coup, repris par l'un et l'autre que j'ai cité précédemment, nous ne revenons sur un passé qu'à la lumière d'un présent qui le reconstitue en totalité. Donc par là même, l'idée de biographie, de biographème me semble important, mais à la condition peut-être de le voir à travers ce que je viens de dire. Non pas je vais chercher à puiser dans l'histoire d'une personne ce qui à un certain moment l'a conduit à penser comme elle a conduit, mais me dire que si je vais puiser dans ce passé, alors il faut que je le réfère peut-être à un aujourd'hui. Ce qui fait que je fais un pas de côté avec la phénoménologie. Michael a fait référence à l'ethnométhodologie. J'ose, me semble-t-il, penser que la phénoménologie est une philosophie. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est tout à la fois de penser le monde, et c'est tout à la fois de comprendre sa pensée et de penser le monde. Mais si à aucun moment je ne dis quelles sont les clés que j'utilise pour regarder l'individu, n'y a-t-il pas quelque chose qui manque ? Je veux dire que si à un certain moment, si à un moment je ne fais pas référence à la psychanalyse, en étant absolument conscient du mécanisme de transfert et de contre-transfert qui se joue à travers l'intersubjectivité à laquelle vous avez fait référence, est-ce que je peux en rester là ? Est-ce que je peux avoir une vision phénoménologique des choses sans référer à une théorie de référence qui me rende attentif à tous les mécanismes de projection, de transfert que je vais pouvoir vivre dans les situations que j'analyse et que je cherche à comprendre ? C'est une question pour moi. Alors, l'autre, il faut quand même que je m'y retrouve un petit peu. Non, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la journée. La première à laquelle j'ai été présent. Alors, par rapport à aujourd'hui, ben, mon vieux, il y en a des choses qui ont été dites. Hein. Celle qui m'a le plus intéressé, c'est le sens. C'est la question du sens. Même si elle a été abordée, mais elle n'a pas été complètement inventoriée. Alors, moi j'ose, hein, le sens comme la capacité individuelle à élaborer un rapport symbolique, c'est la capacité pour moi, si j'avais à donner une définition. J'écris un petit livre qui a pour titre « Comment donner du sens à l'école », donc ça me semble être la question fondamentale que posent les élèves dans le système scolaire. Comment le sens comme capacité à élaborer un rapport symbolique entre une situation vécue et son propre vécu. J'étais allé regarder du côté de Deleuze, quand, pas Guattari, mais Deleuze là, seul, dans les logiques du sens, quand il écrit en 69 son livre sur les logiques du sens, et il rabat la question du sens sur le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au monde. Et ce n'est pas pour rien qu'il me semble qu'à quelques moments a effleuré l'idée de rapport au savoir comme étant une notion qui traverse les sciences de l'éducation auxquelles j'appartenais, qu'en quelque sorte le sens n'est pas spécifique à l'individu. Les mathématiques n'ont pas plus de sens que les arts plastiques. Et le sens est toujours dans le rapport à quelque chose. Et dans mon rapport... Donc ça reprend l'idée de culture que j'évoquais tout à l'heure dans sa dimension anthropologique. Si la question qui nous préoccupe, c'est à travers les approches qui sont spécifiques aux sciences cognitives ou qui sont spécifiques à la phénoménologie, nous nous intéressons à comprendre comment nous créons en tant que didacticiens du sens dans une situation scolaire pour que les élèves aient envie de se l'approprier ou de d'acquérir le savoir, alors il faut que nous ayons là aussi une théorie, en tout cas une conception du sens. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'idée de rapport au savoir est une question qui n'épuise pas la question du sens. Mais rapport au savoir dans la pluralité des significations qu'il recèle, c'est-à-dire que le rapport au savoir est le rapport à l'école. À l'école en tant qu'institution, à l'école en tant que lieu clos dans lequel je vais passer une partie de mon existence. Et puis le rapport au savoir, c'est le rapport au savoir avec un S majuscule, c'est-à-dire un rapport à cette chose qui se passe dans l'école, qui est si particulière et qui est, indépendamment d'un savoir spécifique, cette chose qui est le savoir avec un grand S. Et puis le rapport au savoir, c'est le rapport aux mathématiques, ou c'est le rapport à l'éducation physique, ou c'est le rapport au savoir, et cette fois-ci, je le mettrai au pluriel. Bon, voilà des relations que j'ai pu faire avec des questions qui m'intéressent. Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant le mot ressenti, parce que, je ne sais pas, mais il me semble que j'en ai eu l'intuition à quelques moments. C'est toujours comme ça qu'on trouve les choses intéressantes, c'est quand on les rabat sur ses propres questionnements. Je me dis, alors un terme qui est utilisé par les, je ne sais pas ce que je suis, par les pédagogues, je veux être quelque chose comme un pédagogue, que j'ai été quelque chose comme un pédagogue. Le mot métacognition, l'idée qu'en définitive, on va aider quelqu'un à trouver du sens quand on va l'aider à se réfléchir sur l'action qu'il a produite pour en comprendre comment elle s'est produite et quelle signification elle peut avoir pour lui. Il y a une métacognition qui est une métacognition très cognitive. Et puis, justement, avec Jacques Lévine, on avait parlé d'une métacognition psychologique. Maintenant que je sais ce que je sais, qu'est-ce que ça éclaire par rapport à des questions dont j'étais porteur, par rapport à des questions qui m'adviennent maintenant que je sais ce que je sais. Alors, c'est-à-dire que ce ressenti, cette globalité dont vous parliez, moi, elle a de la signification pour moi. Dans la mesure où je me dis qu'aider un élève à trouver du sens, ce n'est pas simplement l'aider à recontextualiser un savoir au sein de la discipline dans laquelle il prend signification, mais c'est de l'aider, alors sans revenir au ressenti qui a été le sien lors de l'acquisition ou lors de la transmission de ce savoir, c'est l'aider à mettre en articulation, c'est de l'aider à construire une jonction entre cette chose-là qui existe au milieu de la classe à un moment déterminé et puis toutes les questions dont je suis porteur ou toutes les questions dont ce savoir permet une émergence au moment où il est émis. Voilà. L'autre chose, alors il y a encore trois autres choses qui ont émergé pour moi au cours de cette journée. Il y a cette... je me tourne du côté de Luc, il y a cet établissement dans lequel la formation va exister dans l'établissement, tu dis, l'année prochaine. C'est-à-dire que... Enfin, là, j'aime beaucoup une... Même si ça me paraît parfois abscon comme... vocable, les sociologues des organisations parlent des apprentissages capacitants et des entreprises capacitantes dans lesquelles on développe pas simplement des capacités, mais bon, il y a toute une théorie derrière de Farzon, des capacités. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait qu'un environnement dans lequel non seulement on est une organisation apprenante, mais une organisation dans laquelle on crée les conditions d'apprentissage? Qu'est-ce que ce serait qu'un établissement scolaire, qu'est-ce que ce serait qu'un collège dans lequel le chef d'établissement ou le responsable d'association, le responsable syndical, mais souvent le chef d'établissement, crée les conditions d'un apprentissage collectif. Voilà, les organisations capacitantes, pour reprendre leurs termes. L'autre chose qui m'a intéressé, c'est... alors pour moi, c'est une trilogie, c'est l'expérientiel. L'expérientiel au cœur d'une trilogie qui est l'émotion, la notion et l'action. C'est-à-dire qu'il me semble que, à travers ce que peuvent dire les enseignants dans leur vécu de classe, il y a quelque chose qui renvoie à des actions. C'est bon, un concept pragmatique, passeré, mayen, didactique, professionnel. Revenons à l'action, revenons à l'action. Ne nous en éloignons pas, donc on enregistre, autoconfrontation. Mais cette action, on y revient parce qu'elle fait émerger des émotions, alors qui parfois s'appellent nappes, qui parfois s'appelleront autre chose. Et tout ça, progressivement, ça aide à construire un savoir, ça aide à se mettre à distance et ça aide à construire de la notion. Donc il me semble qu'on gagnerait peut-être à introduire, mais de manière permanente, cette trilogie. C'est-à-dire que l'action déclenche une émotion. L'action déclenche une émotion et cette émotion, elle va faire exister quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir distancié, que j'appelle une notion, mais c'est une circularité entre les trois. Et parfois, c'est l'émotion qui engage sur une action, qui conduit à une notion, et parfois, c'est une notion. C'est ce que j'essayais d'illustrer un peu hâtivement avec l'idée de métacognition psychologique. Alors, la dernière chose que j'ai pu noter au cours de cette journée, je l'ai déjà dite, donc je ne vais peut-être pas la redire. C'est en définitive, c'est ne conviendrait-il pas pour porter un regard qui ne... Enfin, il y a deux questions qui se posent à moi. La première, c'est comment est-ce que je peux être phénoménologue alors que je suis, j'allais dire, immergé dans des théories qui m'ont façonné jusqu'à ce jour. Comment est-ce que je peux, à un certain moment, faire abstraction de théories de référence qui m'ont constitué en tant que tel, comme, j'ose pas dire que je suis chercheur, comme chercheur, mais je vais utiliser ce terme, comment est-ce que je peux m'en mettre à distance pour porter un regard qui soit un regard, en quelque sorte, c'est stupide, à théoriser, quoi. Qui soit un regard qui ne soit pas complètement imprégné des concepts qui m'ont forgé jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est une question centrale quand on parle de phénoménologie. Et puis, la deuxième question tout aussi centrale, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, mais finalement, si j'arrive à trouver cette distance nécessaire qui va me permettre, pas simplement d'expliquer, pour reprendre la différence que fait Dilthey, entre expliquer et le comprendre, qui va me permettre, pas simplement d'expliquer, mais qui va me permettre de comprendre, qui va me permettre d'avoir une attitude compréhensive, ne faut-il pas, enfin, suffit-il d'utiliser l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch, ou bien ne convient-il pas, mais je me redis, de faire référence à une théorie qui me met à distance de ma propre subjectivité et de mes propres, j'ai utilisé le terme de projection, de transfert et de contre-transfert. Et donc, vous voyez, la théorie à laquelle, pour ma part, j'adhérerais. Voilà, avec la difficulté, évidemment, d'y adhérer. Merci de m'avoir permis, un certain moment, de me placer à distance par nécessité. Parce que... Thank you.